Bonsoir mes frères et sœurs. Aujourd'hui est une première et peut-être une dernière pour moi. Je vais faire toute une méditation sur des pieds. Ce sont les pieds de notre Seigneur Jésus. Je vous invite à suivre avec moi la parole de Dieu. En Apocalypse chapitre 1, et je commence avec le verset 19. Moi, Jean, donc ça c'est l'apôtre Jean, mais qui est notre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit, j'étais dans l'Esprit le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix, ou littéralement pour voir la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Nous arrêtons là la lecture de la parole. Rappelons-nous que le message central de ce livre nous est donné dans la première phrase de ce livre. C'est avant tout une révélation de qui ? De Jésus-Christ. C'est là pour nous parler, pas avant tout des fins des temps, mais avant tout de Jésus-Christ lui-même. Et nous voyons au verset 12 que Jean se retourne pour, littéralement, pour regarder la voix qui me parlait, ou pour voir la voix qui lui parlait. Il veut voir cette voix. Et j'ai suggéré qu'on puisse mettre un grand V sur le mot « voix », parce que ça parle de Jésus-Christ en tant que la parole, en tant que la voix de Jésus-Christ. Et cela nous fait penser à Genèse 3:8, qui dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin », une voix qui parcourait le jardin à la recherche de l'homme déchu. Et il est vraisemblable que la voix qui marchait ou qui parcourait le jardin était une apparition préincarnée de Jésus-Christ lui-même, Christ lui-même. Et cette même voix qui apparaît tout au début de Genèse réapparaît ici en Apocalypse pour se faire connaître. Et je nous rappelle, parce que ça fait quelque temps depuis qu'on n'a pas été dans ce livre ensemble, qu'on peut diviser cette vision en trois parties. D'abord, le contexte de la vision, c'est-à-dire où est Jésus-Christ? Parce qu'il regarde et la première chose qu'il note au verset 12, il voit, avant de souligner comment est Jésus lui-même, il dit qu'il voit sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers d'or, voici le personnage qu'il va décrire. Donc le contexte où se trouve le Fils d'homme est au milieu de ces églises. Et verset 20 nous dit que ces sept chandeliers sont les sept églises. Donc, ce sont des églises souffrantes, persécutées, imparfaites. Parfois, elles ont de grosses lacunes, mais voici Emmanuel, Dieu avec nous, Christ au centre et au milieu de ces églises. C'est l'assurance que Christ demeure au sein de ces églises. Et puis la deuxième partie, c'est ses vêtements. Il dit au milieu du verset 13 qu'il est vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il faut penser à ces écharpes que portent les mères sur la poitrine. C'était ce qu'il voit, mais c'est une écharpe d'or qui représente sa grandeur. Et nous avons vu que ce sont en fait des vêtements glorieux du souverain sacrificateur et aussi d'un roi. Il y a ces deux images mélangées ici. Un roi prêtre ou un prêtre roi. Et puis il commence troisièmement à décrire sa personne. Il commence avec la tête et ses cheveux qui sont blancs, etc. au verset 14. Une autre façon de dire ces mêmes trois points, c'est de parler d'abord de la gloire de sa présence, c'est-à-dire la présence de Christ au milieu de ses églises. Trop souvent, nous oublions que Christ est dans la barque. Nous voyons la mer qui s'agite et nous, on oublie que Christ est dans la barque et qu'il ne dort jamais au sein de ses églises. Christ est glorieux dans sa présence. Deuxièmement, on peut parler de la gloire de sa position que nous voyons dans ses vêtements. Les vêtements glorieux, comme j'ai dit, d'un souverain sacrificateur roi. Et puis, troisièmement, la gloire de sa personne. Et la description de la personne commence avec sa tête. Voici la seule personne avec deux natures. Il est fils d'homme. Donc Jésus est encore homme. C'est le titre préféré de Jésus-Christ sur terre, c'était le Fils d'homme. Il a une vraie humanité, il peut donc compatir avec nos faiblesses. Et Jean commence à décrire ce qu'il voit. Et il décrit en premier lieu ses cheveux blancs, qui parlent de son âge. C'est un signe d'âge, les cheveux blancs, sauf que Jésus vient de l'éternité. Jean 8, 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il faut penser de Jésus comme celui qui vient, comme dit Michée, des temps anciens de l'éternité. Ça parle aussi de sa sagesse et de sa pureté sans pareil, parce qu'il n'y a rien de plus blanc sur la terre que la laine, rien de plus blanc dans le ciel que la neige. Il utilise ces images pour parler de Jésus. Et puis, deuxièmement, il parle de ses yeux comme une flamme de feu, qui décrit donc une omniscience pure de la part de Jésus-Christ. Notez le mot « comme ». Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça ne dit pas qu'ils étaient une flamme, c'est une comparaison. Et il y a surtout deux idées ici que nous avons vues ensemble. Une connaissance parfaite, un discernement sans faille, c'est-à-dire il voit tout. Nos yeux ont besoin de lumière qui vient de l'extérieur pour voir. En éteint les lumières, on ne voit plus rien. Jésus produit sa lumière. Il voit tout. Le noir est comme le jour pour lui. La nuit est comme le jour. Mais l'autre idée communiquée par cette image, c'est une indignation face au péché. C'est-à-dire quand Jésus regarde, ce n'est pas avec indifférence, ce n'est pas les yeux qui ferment parce qu'il est fatigué, c'est tard le soir. Non, quand il regarde, c'est un regard vif qui pénètre au fond de l'âme et qui juge le cœur de l'homme. Soit il pardonne, soit il juge dans sa colère, mais il voit tout. Et maintenant, nous arrivons donc, verset 15, à ses pieds. Il dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Pardon. Alors, n'oublions pas que nous parlons de Jésus tel qu'il est ce soir. Il est par son esprit au milieu de nous. Nous ne voyons pas son corps. Il n'est pas là avec son corps. Mais son corps existe bel et bien. Il reviendra un jour sur terre avec son corps. Et nous verrons un jour tel qu'il est décrit ici. Nous voyons troisièmement donc que ses pieds sont comme à de l'airain ardent. Je crois que ça parle d'une image de sa suprématie irrésistible. Le mot suprématie veut dire supériorité de puissance. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. En le lisant simplement, nous avons une image de force, de puissance irrésistible. Notez les mots semblables et les mots comme. Jésus est homme. Il n'est pas moins homme aujourd'hui que le jour qu'il est né à Bethléem. Et donc, il a un corps d'homme. En fait, Luc 24, 39, Jésus a dit, « Voyez mes mains et mes quoi ? Pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. » Et voyez, c'est-à-dire toucher mes mains, et il les invite à toucher ses pieds. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Il est en train de leur montrer ses pieds. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Voyons que Jésus s'est servi de ses pieds comme preuve de sa résurrection corporelle, son vraie humanité. Il mentionne spécifiquement le fait qu'il a chair et os, une chair humaine, ainsi que tous les os composant le squelette humain. Il a ses os. Et dans le même chapitre, quelques versets plus tard, nous lisons qu'il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Donc il fut enlevé au ciel avec ses mains et ses pieds qui sont faits de chair et d'os. Et Luc reprend, c'est le même auteur humain de Luc en Actes, il reprend donc l'histoire dans les Actes, chapitre 1, verset 10, et dit « Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra comment ? De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il est parti avec ses mains et ses pieds. Il reviendra avec ses mains et ses pieds de la même manière. Le fait que Jésus est venu en chair et en os est fondamental à notre foi chrétienne. 1 Jean 4, 2 nous dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, c'est-à-dire avec de vraies mains, de vrais pieds, etc., et de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, venu en chair, c'est l'idée, n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. » Il a souligné le fait qu'après sa résurrection, il avait toujours sa chair et ses os. Il est monté au ciel en chair et os. Il reviendra de la même manière. Mais ses pieds, qui seront composés de chair et d'os, seront semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela ? À travers les quatre évangiles, les pieds de Jésus sont mentionnés plusieurs fois. Et pour démontrer toujours dans les évangiles deux choses, et une troisième chose qui vient après en hébreu, mais la première chose qui est soulignée, quand on mentionne les pieds de Jésus, c'est la supériorité de Jésus sur tous ceux qui l'invoquent, c'est-à-dire sur ses amis. Je vous donne quelques exemples Marc 5, 22. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, les pieds de Jésus. Alors l'image devrait nous saisir. Nous avons le chef de la synagogue aux pieds de Jésus. Une femme païenne dans la région de Tyr, Marc 7, 25, une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. C'est une image de quoi quand on se jette aux pieds de quelqu'un. L'homme de qui Jésus avait chassé une légion de démons, Luc 8, 35, les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus, ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtus et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Il est maintenant, lui qui avait les démons, il est maintenant aux pieds de Jésus. Luc 10, 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Ce n'est pas par hasard qu'il est souligné qu'elle était là aux pieds de Jésus. Quand Jésus guérit les 10 lèpres, c'est raconté en Luc 17, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alors je vous invite à trouver Luc chapitre 7. Est-ce que vous pouvez trouver ça dans vos Bibles, Luc chapitre 7? Et le verset 37, Luc 7, 37, parle d'une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Et on sut que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Verset 38, et se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis elle les essuya, c'est quoi les pieds, avec ses cheveux, les baisa, les pieds, et les oignit de parfum. Alors c'est très significatif que ce soit ses pieds qu'elle lave. Pensez à cette image, elle adore, elle exalte, elle honore la partie la plus inférieure, si vous voulez, de Jésus. Je n'ai jamais eu cette expérience. Et je n'ai jamais fait cela à une autre personne. Me jeter aux pieds de quelqu'un. Et notons maintenant le rôle important que jouent les pieds de Jésus dans sa propre réponse à Simon. C'est Simon le pharisien qui critique un peu la femme. Et c'est en Luc 7, verset 44. Les trois versets de suite parlent de ses pieds. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » Est-ce que vous voyez le contraste? Cet homme n'a même pas considéré la tête de Jésus comme digne d'attention et d'honneur. Mais cette femme, au contraire, elle donne une fortune pour parfumer ses pieds. Alors, selon vous, c'est qui des deux qui aime Jésus le plus? Regardez le verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonner. Vous vous rappelez de ce que Jean-Baptiste a dit? C'est Paul qui nous donne ces mots dans un sermon donné à Antioche en Pisidie, trouvé en Actes 13. Il dit que lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds duquel, c'est le même mot, des pieds duquel je ne suis pas digne de le délier les souliers. » Vous voyez le rôle, il ne parle pas de la tête, il ne parle pas des mains, il dit « Je ne suis même pas digne de toucher à ses pieds. » Après la résurrection, en Matthieu 28, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et puis nous lisons verset 9 que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Et voilà, elle voit Jésus donc ressuscité. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Ça va ensemble en fait, cette adoration. Le fait de saisir ses pieds. Donc nous voyons le rôle que jouent les pieds de Jésus pour démontrer la supériorité de Jésus sur tous ceux qui l'invoquent, c'est-à-dire ses amis. Jésus ne s'est jamais jeté aux pieds de quelqu'un. Mais nous voyons les chefs de synagogue, les femmes païennes, les disciples, etc., qui viennent se jeter aux pieds de Jésus ou s'asseoir à ses pieds pour apprendre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est supérieur de toutes ces autres personnes. Et deuxième sens dont nous voyons la supériorité de Jésus, c'est sur tous ceux qui le rejettent, c'est-à-dire ses ennemis. Et là aussi, les pieds de Jésus jouent un rôle important. Et nous le voyons en Marc 12, 36, où Jésus parle, c'est aussi en Luc 20, et lui-même il parle ici de David, qui est animé par l'Esprit Saint, qui dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Dans le grec, c'est le même mot « pied » ici. C'est traduit dans une autre traduction. « Jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. » Donc là, le pied de Jésus est au-dessus et sur ses ennemis. C'est un signe de victoire quand on peut terrasser l'ennemi et mettre son pied sur sa tête ou sa nuque. Et Pierre cite encore ce passage dans son premier serment, le jour de Pentecôte, j'en vais pas le lire, mais c'est en Actes 2, 35. Et cette idée est développée plus tard, surtout en 1 Corinthiens 15, où il dit « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis où ?» Sous ses pieds. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Éphésiens 1, 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, il est suprême sur ses ennemis. Les pieds de Jésus montrent sa supériorité sur ses ennemis parce qu'ils vont se trouver en dessous même ses pieds. Et puis, en Hébreu 1, l'auteur utilise cette même citation qu'a utilisée Jésus et Pierre pour montrer que Jésus est supérieur à qui? Il va dire, verset 13, « Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied ou jusqu'à ce que je les mets sous tes pieds ?» Le même mot ici. Nous voyons que le rôle que jouent les pieds de Jésus pour démontrer la supériorité de Jésus sur tous ceux qui l'invoquent, ses amis, sur tous ceux qui le rejettent, ses ennemis, et même sur tous les anges. Et je mentionne ici en passant, parce qu'on ne peut pas passer le temps à le considérer, mais ça rend l'exemple de Jésus très frappant quand la nuit, avant sa mort, il prend un torchon. Et il va et il lave, quoi? Les pieds même de ses disciples. Quelle humilité de sa part. Il y a donc toujours cette idée de supériorité quand on fait mention des pieds de Jésus. Donc revenons à la description de Jean, en gardant ceci à l'esprit. Ses pieds était semblable à de l'airain ardent comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et nous avons déjà noté que Jésus est dans des vêtements d'un souverain sacrificateur, roi, et les sacrificateurs, en fait, ils avaient des robes très spécifiques, mais ils servaient pieds nus. Et Jésus ici est pieds nus. Et tout ceci fait écho à la description donnée du Fils de l'homme en Daniel chapitre 10, verset 6, qui dit « Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, et ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. » Donc Jésus est homme et pas n'importe quel homme. Il a même dans son aspect physique ce qui communique sa grandeur. C'est-à-dire, même en le voyant, quand il viendra, même en le voyant, même en regardant simplement ses pieds, on verra sa grandeur et sa majesté. Et la force de Dieu se voit quand il juge ses ennemis. Plein de fois dans l'Ancien Testament, ça parle du fait que Dieu va fouler les peuples sous ses pieds. Il va les combattre, les battre. Il va être victorieux, il les aura sous ses pieds. Ésaïe 63, 6, c'est un exemple de ceci. Et donc je crois que c'est surtout cet aspect de jugement de Christ qui est souligné par cette référence à ses pieds comme de l'airain ardent. Jean est frappé en regardant ça par la force irrésistible de Christ. Il suffit pour lui de regarder ses jambes et ses pieds pour savoir que personne ne peut résister à sa volonté. Il y a une lettre qui revient sur les pieds de Christ. C'est la lettre écrite à Thyatire. Peut-être vous pouvez le regarder rapidement avec moi. C'est Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18. C'est intéressant quand vous lisez chacune de ces lettres. Il y a une description différente de Jésus. Et ça correspond en fait à la lettre qui suit. Et en Apocalypse 2, 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, « Voici ce que dit le Fils de l'homme, celui qui a des yeux comme une flamme de feu, et dans les pieds sont semblables à de l'airain ardent. » Donc c'est la seule des sept lettres où il revient, Jésus lui-même maintenant, il revient et se décrit comme ayant des pieds semblables à de l'airain ardent. Alors notez maintenant les actions de Christ qui vont être associées à cette description. Il dit verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Ça correspond à ses yeux, n'est-ce pas? Il connaît tout. Mais verset 20, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Et c'est ici que correspond maintenant ce qu'il va faire à la description qu'il a donnée de lui-même et de ses pieds. Regardez ce qu'il dit au verset 22. Voici, je vais la jeter dans un lit. Envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres à Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. Verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Voyez, il revient ici, je donnerai autorité sur les nations, il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, notez ceci, j'ai reçu le pouvoir, c'est-à-dire ce même pouvoir, de mon Père. Ça aussi est en phase avec ses descriptions de ses pieds. Donc Jésus est suprême. Quand il fait référence à ses pieds, ça veut dire il vient pour écraser, pour juger. Personne pourra résister à son avance. Ses pieds avancent et personne pourra résister à son jugement. Il suffit de jeter un coup d'œil à ses pieds pour être terrassé par sa suprématie, par sa supériorité, par sa puissance irrésistible. Il va mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Voici notre Seigneur Jésus. Quand il vient, il va tout juger. Il va tout juger. Et personne ne pourra résister à ses pieds. Quand on pense à la force de quelqu'un ou d'une armée, on pense tout souvent à leurs armes. Parce qu'ils ont des chars, des armes pour faire mal. Des terroristes ont besoin des armes, même au moins un couteau ou quelque chose. Jésus peut venir pieds nus et fouler tous ses ennemis. Pieds nus. C'est sa force irrésistible. Nous servons un grand roi. Et je termine avec ceci. Revenez au chapitre 1 et notez la réaction de Jean lorsqu'il voit Jésus. Le verset 17 dit « Quand je le vis, je tombai où ? À ses pieds comme mort. » La Bible dit « Tout genou fléchira, tout le monde tombera à ses pieds. » Mais ce qui devrait nous faire réfléchir, c'est le fait que ce n'est pas à tous qu'il fera ainsi, comme il a fait avec Jean. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Quelle merveille, non? Il tombe, il peut pas faire autrement, il tombe à ses pieds, qui sont comme de l'airain poli, ardent. Mais il sent sa main. Il sent pas le pied qui l'écrase. Il sent sa main qui le relève. Quelle merveille! Mais ce n'est pas tout le monde qui connaîtra la main de grâce. Il y aura beaucoup qui sont foulés sous ses pieds dans sa grande colère. Que Dieu nous aide donc à nous courber dès aujourd'hui à ses pieds. Prions. Ô Père, tu es grand, tu es immense, et ton Fils Jésus-Christ est trop grand et beau et fort pour pouvoir le décrire avec une bouche humaine, même la meilleure des bouches, et surtout avec la mienne. Mais nous prions que par ton esprit, tu nous aides chacun à pouvoir mieux apprécier ta grandeur et ta réalité et le fait que tu es aujourd'hui vivant. Et comme tu as promis dans ce livre, tu viens fouler aux pieds tes ennemis et être admiré et glorifié par les saints. Oh, nous voulons être parmi ceux qui tombent à tes pieds pour t'adorer pour ta grâce dans nos vies. Qu'il n'y ait personne ici qui soit éternellement perdu et jugé sous ta colère, mais que chacun puisse connaître ta grâce. Car c'est au nom de ce grand Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. À lui soit la gloire et la victoire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.